La seconde mademoiselle M.M. Fin. Dans le courant de l'après-midi, je me laissais persuader d'aller faire une banque et je me retirais avec plus de 1 000 louis de bénéfices. Ayant fait reporter ma cassette chez moi, je me rendis à la chaumière, très content de ma journée et bien disposé à couronner l'œuvre par une nuit d'amour. Je trouvais que ma belle amie avait une teinte de tristesse répandue sur ses traits. Je lui en demandai la raison. Elle me dit qu'un neveu de l'hôtesse, qui était arrivé le matin de Chambéry, lui avait dit avoir appris d'une sœur converse qu'il connaissait au même couvent que deux converses, devait partir le surlendemain à la pointe du jour pour venir la prendre, et que cette triste nouvelle lui avait fait répandre bien des larmes. Mais l'abbesse ne devait les envoyer que dans une dizaine de jours. Elle s'est ravisée sans doute. Oh, nous sommes malheureux même dans le bonheur. Détermine-toi, sois ma femme, suis-moi à Rome, où je te ferai relever de tes vœux, et tu peux compter que j'aurai soin de ton bonheur. Non, mon ami, j'ai assez vécu. Laisse-moi retourner dans le tombeau. Après le souper, je dis à la paysanne que si elle pouvait se fier sur la discrétion de son neveu, elle devait le faire partir de suite pour Chambéry, avec ordre de revenir à l'instant même où il serait que les converses en seraient partis, et de tâcher d'être de retour 2 heures avant leur arrivée. La bonne femme me dit que je pouvais compter sur la discrétion du jeune homme et sur l'exécution de mes ordres. Ayant ainsi tranquillisé ma charmante nonne, je me couchais auprès d'elle, amoureux mais triste, et sous prétexte de lui laisser prendre du repos, je la quittais à minuit. Dès le matin, je sortis de chez moi sans être vu, et je me rendis chez ma belle amante, décidée à ne la quitter qu'une demi-heure avant l'arrivée des deux converses. Quand elle me vit et qu'elle sut que je ne la quitterais pas jusqu'à son départ, elle tressaillit de joie, et nous enfantâmes le projet de nous passer le dîner pour ne nous occuper que du plaisir et d'attendre un souper délicat. « Nous nous coucherons après souper, me dit-elle, et nous ne nous lèverons que quand le jeune messager nous aura apporté la fatale nouvelle du départ des converses. » Je trouvais l'idée sublime. Ayant appelé la paysanne pour la prévenir de nos arrangements, elle nous loua et nous promit que nous pouvions être heureux en toute assurance, car elle veillerait sur notre repos. Nous ne trouvâmes pas les heures longues, car la matière ne manque pas à deux amants passionnés, puisqu'ils sont le sujet de leurs discours. D'ailleurs, outre les intermèdes des caresses, il y avait dans notre situation quelque chose de si mystérieux et de si solennel que nos âmes et nos sens étaient constamment en action. Après un souper digne de la table d'un Lucullus, nous passâmes 12 heures à nous donner des preuves réciproques d'amour et d'abandon, nous endormant après nos luttes amoureuses et ne nous réveillant que pour nous donner de nouveaux assauts d'amour. Le lendemain, nous nous levâmes pour nous rafraîchir, et après un bon dîner humecté d'un Bourgogne délicieux, nous nous recouchâmes. Mais à 4 heures, la paysanne vint nous dire que les converses arriveraient vers 6 heures. Nous n'avions plus à nous occuper de l'avenir, le sort était fixé. Et nous nous livrâmes d'un commun accord aux caresses d'adieu. Je scellai la dernière de mon sang. Ma première elle-même m'avait vu, ma seconde devait le voir aussi. Elle en fut alarmée, mais je la calmai. Je me levai ensuite, et prenant un rouleau de 50 louis, je la suppliai de me les garder, lui promettant d'aller les reprendre avant 2 ans à la grille de sa fatale prison. Elle me comprit et accepta. Elle employa le dernier quart d'heure à verser les larmes, et je ne retins les miennes que pour ne pas ajouter à ses douleurs. Je coupai une touffe de sa toison et une mèche de ses beaux cheveux, lui promettant de les porter toute ma vie sur mon cœur. Je sortis, après avoir annoncé à la paysanne qu'elle me reverrait le lendemain. Je me couchai dès que je fus rentré chez moi. Le lendemain, au point du jour, j'étais sur le chemin de Chambéry. À un quart d'heure de lieue d'Aix, j'aperçus mon ange qui marchait à pas lents. Dès que les deux béguines furent à ma portée, elles me demandèrent l'aumône au nom de Dieu. Je leur donnai un louis, mais ma sainte ne me regarda pas. De retour de Turin l'année suivante, après Pâques, Casanova s'arrête à Chambéry pour revoir M.M. Il retrouve là Madame Morin de Grenoble. Celle-ci est la tante de Mademoiselle Roman, devenue à la salle des conseils et des prédictions kabbalistiques de Casanova la maîtresse de Louis XV. Or, coïncidence curieuse, étrange, comme il y en a tant dans l'existence, de ce séduisant aventurier, cette Madame Morin est aussi la tante de M.M. Je lui présentais Mademoiselle Désarmoise sous le nom de famille de son amant, après m'être assuré toutefois que celle-ci dînerait avec nous. Après le dîner, nous allâmes ensemble au couvent de M.M., qui, dès qu'on lui eut annoncé sa tante, descendit à la grille, fort surprise d'une visite inattendue. Mais il lui fallut toute sa présence d'esprit pour ne pas se trahir en me voyant. Quand sa tante m'eut présenté par mon nom, elle me dit avec cet à-propos si naturel aux femmes que pendant son séjour à Aix, elle l'avait vu 5 ou 6 fois à la fontaine, mais que je ne pouvais pas la reconnaître car elle n'y avait jamais été que sous le voile. J'admirais autant sa finesse et son esprit que sa figure ravissante. Elle me paraissait embellie et sans doute que mes regards le lui apprirent. Nous passâmes 1 heure à parler de Grenoble et de ses anciennes connaissances, qu'elle se rappelait avec plaisir. Ensuite, elle nous quitta pour aller prendre une jeune pensionnaire qu'elle aimait et qu'elle voulait présenter à sa tante. Je saisis cet instant pour dire à Madame Morin que j'étais émerveillé de la ressemblance, qu'elle avait même son de la voix de ma M.M. de Venise, et je la priai de me procurer le bonheur de déjeuner le lendemain avec sa nièce, et de lui faire accepter 12 livres d'un excellent chocolat que j'apportais de Gênes. « Non, je vous engage, me dit-elle, à lui offrir ce présent vous-même, car, quoique non, elle est femme, et à présent nous fait plus de plaisir de la main d'un homme que de la part d'une femme. » M.M. revint avec la supérieure, 2 autres nonnes et la jeune pensionnaire. Lyonnaise, belle à ravir. Je fus obligé de faire la chouette à toutes ces béguines, et Madame Morin dit à sa nièce que je désirais essayer d'un excellent chocolat que j'avais apporté de Gênes, mais que je souhaitais qu'il fût fait par sa converse. « Monsieur, me dit elle-même, ayez la bonté de m'envoyer le chocolat, et demain nous déjeunerons ensemble avec ses chères sœurs. » Aussitôt que je fus de retour à l'auberge, j'envoyais le chocolat avec un billet très respectueux et je soupais dans la chambre de Mme Morin avec sa fille et Mademoiselle Désarmoise, dont je devenais épris de plus en plus. Cependant, je ne parlais que de M.M. et je crus m'apercevoir que la tante devinait que la belle nonne ne m'était pas étrangère. Je déjeunais au couvent et je me souviens que le chocolat, les biscuits et les confitures furent servis avec une recherche qui tenait beaucoup de la coquetterie. Quand nous eûmes déjeuné, je dis à M.M. qu'il ne serait pas aussi facile de me donner à dîner à une table de 12 couverts assis à la même table, mais dont la moitié serait dans le couvent et l'autre moitié dans le parloir, séparée par une mince grille. « Je serais curieux de voir cela, lui dis-je, si vous vouliez me permettre d'en faire les frais. » « Volontiers, répliqua M.M. Et ce dîner, mi-sacré, mi-profane, fut fixé pour le lendemain. M.M. se chargea de tout et me promit d'inviter 6 religieuses. Madame Morin, qui connaissait mes goûts, lui dit de ne rien épargner, et moi je la prévins que j'enverrais les vins qui seraient nécessaires. Ayant reconduit Madame Morin, sa fille et Madame Desarroises, je me rendis chez M. Magnan, auquel j'avais été recommandé, et l'ayant prié de me faire trouver des vins excellents, il me pria de faire prendre à sa cave tout ce que je pourrais désirer. Je fus servi à souhait. Ce monsieur Magnan était un homme d'esprit, d'une figure agréable, très à son aise. Il occupait hors de la ville une maison vaste et commode, où son épouse, femme aimable et encore très appétissante, faisait les honneurs au milieu de 10 enfants, dont 4 demoiselles fort jolies. L'aînée surtout, qui avait alors 19 ans. Il était gastronome par excellence et se piquait de lettres. Pour m'en convaincre, il m'invita à dîner pour le surlendemain. Nous allâmes au couvent vers les 11 heures et sur 1 heure d'entretien, au moment où l'horloge s'a midi, on vint nous prévenir que le dîner était servi. La table offrait un joli coup d'œil. Elle était couverte de beaux linges éclatants de blancheur et ornée de plusieurs petits vases de fleurs artificielles, mais parfumées, selon l'espèce, de sorte que le parloir en était embaumé. La fatale grille était moins légère que je ne l'avais espéré, ce qui fit que je me trouvais assis à la gauche de M. et tout à fait en pure perte. J'avais la belle des Armoises à ma droite, et cette charmante personne entretint la gaieté parmi nous en nous faisant une foule de jolis contes. Le duc et Costa nous servaient en dehors, et les religieuses étaient servies par leurs converses. L'abondance des mets, l'excellence et la variété des vins, 1000 propos aimables, quelquefois équivoques et toujours pour rire, firent durer ce repas pendant 3 heures. Nous avions tous un bain de gaieté en sus de la raison, ou pour parler nettement, nous étions tous gris. Et sans la fatale grille, j'aurais eu bon marché des 11 femelles, mes convives. Ma jeune Désarmoise, surtout, était d'une gaieté si folle que si je ne l'avais pas retenue, il est probable qu'elle aurait scandalisé toutes les nonnes qui n'auraient pas demandé mieux. Il me tardait de la tenir en tête à tête pour éteindre le feu qu'elle avait allumé dans tous mes sens, et je pouvais me promettre un succès complet à la première rencontre. Après le café, nous passâmes dans un autre parloir, et nous y restâmes jusqu'à l'entrée de la nuit. Madame Morin prit congé de sa nièce, et l'échange des remerciements, les serments de main et les assurances de souvenir entre les nonnes et moi durèrent un grand quart d'heure. Après avoir dit à haute voix à M. qu'avant mon départ j'aurais l'honneur de la voir, nous rentrâmes à l'auberge très contents de cette partie de plaisir, unique dans son genre, et dont je jouis encore toutes les fois que je me la rappelle. La bonne Madame Morin me laissa une lettre pour Madame Barnier, sa cousine, et je lui promis de lui écrire à Paris, et dans le plus grand détail, tout ce qui aurait rapport à la belle roman. Je fis présent à sa fille d'une belle paire de boucles d'oreilles et de 12 livres de bon chocolat que M. Magnan me procura et que Madame Morin reçut comme venant de Gênes. Elle partit à 8 heures, précédée par le duc en courrier. Je trouvai chez le voluptueux Magnan un dîner à la Lucullus, et je lui promis d'aller loger chez lui toutes les fois que je passerais à Chambéry. Je lui ai tenu parole. En sortant de chez ce gastronome, j'allais faire une visite à M. qui vint toute seule à la grille. Après m'avoir exprimé sa reconnaissance de la visite brillante que j'avais su lui faire sous les auspices de sa tante, elle ajouta que j'étais venu troubler sa tranquillité. « Bon, mais je suis tout prêt, mon cœur, à franchir les murs de ton jardin, bien plus lestement que ton fatal bossu. »« Hélas, cela n'est pas possible, car, crois-moi, tu as déjà des espions. » On est certain ici que nous nous sommes connus à Aix. Oublions tout, mon cher ami, pour nous épargner le tourment de vains désirs. Donne-moi ta main. Non, c'est fini. Je t'aime encore, je t'aimerai probablement toujours, mais il me tarde de le savoir par ti, et par ton départ, tu me donneras une preuve de ton amour. C'est affreux, et tu m'étonnes. Tu parais jouir d'une santé parfaite. Tu me sembles devenue plus belle. Je te sais faite pour le culte du plus aimable des dieux. Je ne comprends pas qu'avec du tempérament, tu puisses vivre contente dans une continuelle abstinence. Hélas, à défaut de la réalité, nous nous contentons du badinage. Je ne te cacherai pas que j'aime aussi ma jeune pensionnaire. C'est un amour qui nourrit ma tranquillité. C'est une passion innocente. Ses caresses assouffissent un feu qui me ferait mourir si je m'atteignais sa force par des badinages. Et ta conscience n'en souffre pas. Je n'en suis pas inquiète. Mais tu sais que tu pèches. Aussi je me confesse. Et que dit le confesseur? Rien, il m'absout, et je suis heureuse. Et ta jolie pensionnaire se confesse aussi? Oh, sûrement, mais elle ne s'avise pas de dire au confesseur ce qu'elle ne croit pas être un péché. Je m'étonne que le confesseur ne l'ait pas instruite, car instruire en ce sens est une grande jouissance. Oh, non, notre confesseur est un sage vieillard. Je partirai donc sans avoir reçu de toi un simple baiser? Non, rien. Puis-je revenir demain? Je partirai après-demain. Viens, mais je ne descendrai pas seul, car on pourrait former des conjectures. Je viendrai avec ma petite. Cela sauvera les apparences. Viens après dîner, mais à l'autre parloir. Si je n'avais pas connu M.M. à Aix, sa religion m'aurait surpris. Mais tel était son caractère. Elle aimait Dieu et ne croyait pas que ce Père généreux qui nous a fait avec des passions manquerait d'indulgence parce qu'elle n'avait pas la force de dompter la nature. Je me retirai à mon auberge, fâché que cette belle nonne ne voulait plus de moi, mais persuadé que la désarmoise me dédommagerait. Je trouvai cette belle assise sur le lit de son amant que la diète et la fièvre avaient rendu exclusivement faible. Elle me dit qu'elle viendrait souper dans ma chambre pour laisser le malade tranquille, et ce beau jeune homme me serra la main comme pour me témoigner sa reconnaissance. Comme j'avais copieusement dîné chez Magnan, je ne touchais presque pas au souper. Mais ma compagne, qui n'avait dîné que légèrement, mangea et but d'un appétit dévorant. Je la regardais avec une sorte d'admiration, et elle jouissait de mon étonnement. Quand mes domestiques m'eurent quitté, je défiais la belle à me tenir tête contre un bol de punch qui la mit dans une espèce de gaieté et qui ne demande qu'à rire, et qui rit de se trouver destituée de force et d'usage de raison. Je ne puis pas cependant me faire le reproche d'avoir abusé de son état d'ivresse, car dans toute la volupté de son âme, elle vint au-devant de toutes les jouissances auxquelles je l'excitais jusqu'à 2 heures du matin. Nous étions rendus quand nous nous séparâmes. Je dormis jusqu'à 11 heures, et quand j'allais lui souhaiter le bonjour, je la trouvais joyeuse et fraîche comme une rose. Je lui demandai comment elle avait passé le reste de la nuit. « Mais comme le commencement, me dit-elle à merveille. Et à quelle heure voulez-vous dîner ? Non, je ne dînerai pas. Je préfère réserver tout mon appétit pour le souper. » Son amant, se mêlant à la conversation, me dit d'une voix faible, mais d'un ton poli et calme, « Il est impossible de lui tenir tête. »« À boire ou à manger ? Lui dis-je. » « Ah, à manger, à boire et à autre chose, » répondit-il avec un sourire. Elle rit et l'embrassa avec tendresse. Ce petit dialogue me convainquit que les désarmoises devaient adorer son amant, car outre qu'il était très joli garçon, C'était le caractère qui pouvait le plus convenir à ses dispositions. Je dînais seul. Après le dîner, je me rendis au couvent, où après avoir fait avertir M.M., j'entrai dans le parloir qu'elle m'avait indiqué. Elle ne tarda pas à descendre avec la jeune et belle pensionnaire qui me remplaçait imparfaitement dans ses fureurs amoureuses. Paul n'avait pas achevé sa 12e année, mais elle était grande, forte et très développée pour son âge. La douceur, la vivacité, la candeur et la finesse se mariaient sur son beau visage et lui donnaient un charme ravissant. Elle avait un corset bien fait, qui laissait à découvert une poitrine blanche, bien formée, et sur laquelle l'imagination suppléait facilement les globes qui devaient bientôt l'orner. Cette intéressante tête, d'où pendaient deux superbes tresses d'ébène, et cette poitrine faisait deviner tout le reste, et l'imagination vagabonde en faisait une Vénus en herbe. Je commençai par lui dire qu'elle était fort jolie et qu'elle rendrait heureux l'époux que Dieu lui destinait. Je savais que ce compliment devait la faire rougir. C'est cruel, mais c'est par là que le langage de la séduction commence. Une jeune personne de son âge qui ne rougirait pas quand on lui parle de mariage serait ou imbécile ou déjà endoctrinée, experte dans les exploits du libertinage. Malgré cela, la source de la rougeur qui éclate sur le visage d'une jeune fille à l'approche d'une idée alarmante est un véritable problème. Car elle peut être l'indice de la pudicité pure, elle peut l'être de la honte, mais souvent un mélange de l'une et de l'autre. C'est alors un combat entre le vice et la vertu, et d'ordinaire, c'est la vertu qui succombe. Les désirs, vrais satellites du vice, en viennent facilement à bout. Comme je connaissais la pensionnaire par le récit de M.M., je ne pouvais pas ignorer d'où provenait chez elle la rougeur qui relevait ses jeunes attraits. Faisant semblant de ne m'être aperçu de rien, j'entretins un instant M.M., puis je revins à l'assaut. Elle avait déjà repris contenance. « Quel âge avez-vous, ma belle enfant ?»«
J'ai 13 ans. »«
Ah, tu te trompes, mon cœur, lui dit son ami. Tu n'as pas encore accompli la 12e année. »«
Le temps viendra, ajoutai-je, où au lieu d'augmenter, vous diminuerez le nombre de vos ans. »«
Je ne mentirai jamais, monsieur, j'en suis bien sûr. »«
Vous voulez donc vous faire religieuse, ma belle amie ?»
Je n'ai pas encore cette vocation, mais rien n'obligera à mentir, quand bien même je vivrai dans le monde.
Vous vous trompez, car vous commencerez à mentir dès que vous aurez un amant.
Mon amant mentira donc aussi ? Oh, bien certainement. Si la chose était ainsi, l'amour serait bien vilain, mais moi je ne le crois pas, car j'aime ma bonne amie et je ne lui déguise jamais la vérité.
« Mais vous n'aimerez pas un homme comme vous aimez une femme ?»«
Si, tout de même. »«
Mais non, car vous ne couchez pas avec elle et vous ne coucherez avec votre mari. »«
C'est égal, mon amour sera le même. »«
Comment ? Vous ne coucheriez pas plus volontiers avec moi qu'avec M.M. ?»«
Non, en vérité, car vous êtes un homme, mais vous me verriez. »
Ah, vous ne voulez pas qu'un homme vous voie ?
Non.
Ah, vous savez donc que vous êtes laide ?
À ces mots, se retournant vers son ami avec un air de dépit bien prononcé,
« Est-il vrai, lui dit-elle, que je suis laide ? » ?»«
Non, mon cœur, lui répondit elle-même en se pâmant de rire, non, bien au contraire, car tu es très jolie. »
En disant cela, elle la prit entre ses genoux et embrassa avec tendresse. « Votre corset vous sert trop, mademoiselle. Il est impossible que vous ayez la taille aussi fine. »«
Vous vous trompez, monsieur,
car vous pourriez y passer la main. Oh, je n'en crois rien. » M.M. la mit alors près de la grille, la tourna de côté, me dit de m'en assurer. En même temps, elle lui retroussa la robe. « Non, c'est vrai, lui dis-je, et je vous fais réparation d'honneur. » Mais je maudissais en moi-même la chemise et la grille. « Je crois, dis-je à M.M., que c'est un petit homme. » Sans attendre la réponse, je travaillais si bien que j'acquis par le toucher la conviction de son sexe, et je pus m'assurer que la petite, ainsi que son institutrice, était bien aise que j'acquisse cette certitude. Ayant retiré ma main, la petite donna un baiser à elle-même, dont l'air riant la rassura, et demanda à son ami la liberté de s'absenter un moment. Je devais l'avoir mise dans le cas d'être un instant seule, et moi-même j'étais dans un cas d'irritation complète. Dès que la petite fut sortie, « Sais-tu bien, dis-je à elle-même, que l'éclaircissement que tu m'as procuré me rend malheureux ?»«
Et pourquoi ?»«
Parce que, ayant trouvé ta pensionnaire charmante, je meurs d'envie de la posséder. »«
J'en suis fâché, car tu ne pourrais pas aller au-delà de ce que tu as fait. »« Et puis, mon ami, oh, je te connais, et quand bien même tu pourrais te satisfaire sans danger pour elle, je ne te l'abandonnerai pas, car tu me la gâterais. »
Comment ?
Mais penses-tu qu'après avoir été heureuse avec toi, elle pourrait l'être avec moi ? Je perdrais trop à la comparaison.
Donne-moi ta main.
Pas du tout.
Tiens,
non, je ne veux rien voir.
Pas un peu ?
Non, du tout.
Mais en veux-tu à ma main et à mes yeux ?
Au contraire, si tu as eu du plaisir, j'en suis bien aise. Mais si tu lui as donné des désirs, elle m'aimera davantage.
Quel bonheur, mon ange, si nous pouvions nous trouver ensemble, tous trois en liberté.
Oui, je le sens, mais c'est pas possible.
Es-tu sûr que nous sommes à l'abri de tout œil curieux ?
Oui, très sûr.
La hauteur d'appui de cette fatale grille m'a dérobé bien des charmes.
Mais pourquoi ne t'es-tu pas mis à l'autre ? Elle est beaucoup plus basse.
Allons-y.
Non, pas aujourd'hui, car je ne saurais trouver d'excuse à ce changement.
Je reviendrai demain et je partirai pour Lyon à l'entrée de la nuit. La petite étant revenue, je me mis debout devant elle. J'avais une foule de superbes breloques à mes chaînes de montre. Je n'avais pas eu le temps de me remettre entièrement en état de décence. Elle s'en aperçut, et mes breloques servant de prétexte à sa curiosité, elle me demanda si elle pouvait les voir. « Mais tant qu'il vous plaira, mon bijou, les voir et les toucher aussi !» M.M., prévoyant ce qui allait arriver, nous dit qu'elle allait revenir. Je me hâtais de faire perdre à la trop curieuse pensionnaire tout l'intérêt qu'elle pouvait prendre au breloque en lui mettant entre les mains un bijou d'une autre nature. Elle ne dissimula point son ravissement, ni le plaisir qu'elle trouvait à satisfaire ma curiosité sur un objet tout nouveau pour elle, et dont, pour la première fois de sa vie, elle était maîtresse d'examiner toutes les parties en détail. Mais bientôt, une effusion de liquide radical changea son examen en surprise, et je ne l'interrompis point dans sa ravissante contemplation. Voyant M.M. revenir à pas lents, je baissai la toile et je m'assis. Mes montres étaient encore sur la hauteur d'appui. M.M. demanda à sa jeune amie si elle avait trouvé les breloques jolies.
« Oui, » répondit la petite, mais d'un ton triste et rêveur.
Elle venait de faire en moins de 2 heures un si long voyage qu'elle avait bien de quoi réfléchir. Je passai le reste de la journée à conter à elle-même mes aventures depuis que je l'avais quittée, Mais comme il était trop tard pour pouvoir finir mon récit ce jour-là, je lui promis de revenir le lendemain à la même heure pour l'achever. La petite, qui avait tout écouté, quoique j'eusse l'air de ne parler qu'à son amie, me dit qu'elle mourait d'envie de savoir comment j'avais fini avec la maîtresse du duc de Matalone. Je soupais avec ma belle des armoises, et après lui avoir donné des marques de ma tendresse jusqu'à minuit et l'avoir assuré que je ne retardais mon départ que par amour pour elle, j'allais me coucher. Dès que j'eus dîné, le lendemain, je me rendis au couvent, où après avoir fait venir elle-même, j'allais me placer derrière la grille qui avait la hauteur d'appui beaucoup plus convenable que celle derrière laquelle je me trouvais la veille. Bientôt, elle-même arriva seule, mais prévoyant mon impatience, elle m'annonça que sa jolie compagne ne tarderait pas à me voir. Mais tu lui as mis l'imagination en feu. Elle m'a tout conté en faisant mille folies et en m'appelant son cher mari. Tu l'as séduite, et je suis bien aise que tu partes, car je crois qu'elle en perdrait la raison. Tu vas voir comment elle s'est vêtue. Es-tu sûre de sa discrétion? Oh oui, j'en suis parfaitement sûre. Mais je te prie seulement de ne lui rien faire en ma présence. Quand je verrai le moment, je m'éloignerai. Tu es une divinité, mon cœur. Mais tu serais mieux que cela, si tu voulais. Mais je ne veux rien pour moi, mon ami, parce que cela ne se peut pas. Mais tu pourrais... Non, je ne saurais avec toi me contenter d'un vain jeu qui ne ferait que donner une nouvelle ardeur à des feux mal éteints. Je te l'ai dit, je souffre, mais n'en parlons jamais plus. Mais voilà la jeune adepte, l'air riant, l'œil plein de feu, vêtue d'une douillette courte, ouverte par devant, et une petite jupe de mousseline brodée, qui ne lui dépassait pas le bas du mollet. Elle avait l'air d'une sylphide. À peine assise, elle me rappela l'endroit où j'avais interrompu mon récit. Je continuai, et quand j'en fus à l'instant où Donna Lucrezia me fit voir Leonilda toute nue, elle-même sortit, et la petite friponne me demanda aussitôt comment j'avais fait pour m'assurer que sa fille était pucelle. La prenant alors à travers la fatale grille, contre laquelle elle vint coller son joli corps, je lui montrai comment j'avais pu m'en assurer, et la petite trouvait tant de plaisir à ce jeu que, loin d'éprouver aucune souffrance, elle se pâma deux fois en me pressant la main officieuse. Puis elle me donna la sienne pour me rendre compte et pour le plaisir que je lui avais donné, et, comme pendant cette douce occupation, elle-même reparut, elle se hâta de me dire « Cela ne fait rien, je lui ai tout dit. Mon amie est bonne, elle ne sera pas fâchée. » Elle-même, en effet, fit semblant de ne rien voir, et la précoce petite essuya sa main avec une sorte de volupté qui déclarait combien elle était contente d'elle-même. Je me remis à continuer mon histoire, mais lorsque j'en fus à la pauvre barrée de Turin, leur peignant toutes les peines que je m'étais vraiment données pour la satisfaire, la petite devint si curieuse du fait que, pour que je puisse mieux l'instruire, elle s'offrit à moi dans la posture la plus séduisante. Elle-même, me voyant debout, se sauva, prévoyant que je ne pourrais pas m'empêcher de lui manquer de parole. « Mettez-vous à genoux sur la hauteur d'appui, » me dit la jeune friponne, « et laissez-moi faire. » Lecteur, vous devinez mon intention, et elle aurait réussi, sans doute, si, à l'orifice, le feu qui me consumait n'avait distillé ma force. La charmante néophyte sentit l'aspersion, mais persuadée bientôt de ma défaillance, elle se retira avec un peu de dépit. Mes doigts officieux s'efforcèrent de la dédommager,
et j'eus le bonheur de la voir heureuse. Je quittai ces êtres charmants à l'entrée de la nuit, leur promettant d'aller les revoir dans un an. Mais en me retirant, je ne pus m'empêcher de réfléchir combien ces asiles, que l'on croit réservés à la prière et à la pureté de mœurs, recèlent de germes de corruption, et combien une mère, souvent timorée, crédule et confiante, est dupe de croire que l'enfant de ses affections échappera dans la cellule d'une moinette à l'exemple du vice et de la séduction qu'elle redoute pour elle dans le monde. Sous les verrous, les désirs deviennent frénétiques, et quel désir que ceux qui naissent des besoins de l'amour.